Chapitre 4. Sous le soleil vaporeux, le lac est aussi lisse et brillant que de la soie. Les membres du petit groupe amarrent le bateau à moteur qu'ils ont loué dans une baie à l'ouest de l'île, enlèvent leurs gilets de sauvetage, défont leurs bagages et s'avancent d'une dizaine de pas sur la plage de sable jusqu'à la lisière de la forêt pour s'y reposer. Emma s'appuie sur sa canne, brûlant d'envie de leur faire remarquer qu'ils sont encore suffisamment jeunes pour réussir à marcher 100 mètres. Samir est essoufflé et tousse dans son mouchoir à carreaux. Les nartes tremblent en dépliant sa chaise et en s'asseyant. Et Sonia relève son manteau jaune vif, s'assied sur un rocher et ouvre son sac à dos. Personne ne touche à la nourriture avant qu'on soit arrivé, prévient les nartes.
Je vais juste me droguer un peu, réplique-t-elle en sortant une boîte de médicaments.
Ils ont apporté des œufs durs, de la salade de pommes de terre, des boulettes de viande froide avec de la moutarde de Dijon, des sandwichs au thon, 4 pilsners, des crêpes roulées avec de la confiture de framboise, du café dans un thermos et une petite bouteille de cognac. Emma allume une cigarette et regarde leurs empreintes de pas qui se dessinent dans le sable au milieu du bois flotté et d'autres débris rejetés sur le rivage. Un peu plus loin, il semble que quelqu'un a récemment traîné quelque chose de lourd depuis la plage jusqu'à la forêt.
« Bernie, parfois je vois tout à travers un morceau de verre »,
murmure-t-elle. Depuis le décès de son mari Bernie, elle continue de lui parler. Parfois, elle ouvre sa penderie et parle à son costume d'été. Devant ses amis, elle prétend profiter de sa nouvelle liberté, mais en réalité, Bernie lui manque. Chaque jour.
Est-ce qu'on abandonne et on laisse les nouvelles générations prendre le relais et s'amuser?
Demande Samir.
Ah ça, non!
Rétorque Lennart en se levant. Emma dirige le petit groupe dans la forêt, balayée par le vent, le long de rochers aux arêtes blanches. Sa béquille se coince entre deux racines d'arbres qui affleurent du chemin. Lorsqu'elle essaie de se dégager, elle a l'impression qu'on la tire vers le sol. Subitement, elle a envie d'interrompre l'excursion, de prétexter qu'elle ne se sent pas bien. Mais elle continue encore un peu en direction de la clairière avant de laisser le groupe se reposer à nouveau. Lennart déplie une fois de plus sa chaise et Samir se plaint en souriant qu'il a des taches lumineuses dans les yeux.
« Je crache du sang !»
murmure Sonia. Après que la mort a emporté leur partenaire, ils ont fondé le cercle « Les Seigneurs Occultes ». Leur devise, notre avantage, est d'avoir déjà un pied dans la tombe. Ils voyagent dans des lieux hantés, assistent à des séances de spiritisme et rencontrent des chamans. Aucun d'entre eux ne croit aux fantômes, mais tous trouvent que c'est un moyen passionnant de socialiser et, à quelques occasions, de se faire de vraies frayeurs.
« Maintenant, écoutez, » dit Emma, plantée devant les trois autres. « Le choléra a fait environ 100 millions de morts en Europe au XIXe siècle. »«
Je m'en souviens comme si c'était hier, » plaisante Lennart.
« Marx a soutenu que l'histoire se répète, » poursuit-elle. « D'abord comme une tragédie, puis comme une farce. » Les autorités suédoises ont voulu arrêter la maladie aux frontières et ont installé une station de quarantaine pour les navires en provenance de Russie et de Finlande, sur une île appelée Feyan. « Ça, c'est bien l'esprit !»
ironie Sonia. Un corbeau croasse au loin, juste au moment où le soleil disparaît derrière les nuages. Soudain, la forêt prend une allure inhospitalière.
Feyan est à environ 4 kilomètres à l'est, poursuit Emma en pointant la direction avec sa canne. Tous ceux qui sont morts là-bas ont été enterrés sur des îles inhabitées. Et devant nous se trouve l'un des plus grands cimetières du choléra de l'archipel.
Tous tournent les yeux vers la clairière qu'on devine entre les pins et quelques troncs penchés. Un frémissement, impatient, secoue la cime des arbres, comme si le vent était sur le point de se lever.
« Et il est hanté ?»
s'enquiert Lennart.
« Comme ton cul à cause des hémorroïdes, »
persifle Sonia.
« Désolé, j'entends rien, »
dit-il, en tournant vers elle son oreille qui fonctionne. Sonia pose en soupirant le sac de provisions au sol et se dirige vers la clairière. Les buissons de myrtilles tremblent derrière elle quand elle passe à proximité. Emma voit son manteau jaune disparaître entre les arbres.
« Sérieusement, » poursuit-elle, « j'ai lu tout un tas de textes provenant des archives de la mémoire populaire et de la fondation de l'archipel. Aucun habitant ne débarquerait volontairement sur cette île, mais... »
Elle se tait lorsqu'elle croit distinguer une silhouette entre les arbres et les fourrés, juste derrière Sonia. C'est un homme de petite taille qui porte le costume en lin de Bernie. Il est trop grand pour lui, et ses épaules sont étrangement inclinées.
« Venez voir !»
appelle soudain Sonia depuis la clairière. Tous les trois partent dans sa direction et la trouvent plantée devant un long paquet posé à terre. L'extrémité la plus étroite est appuyée contre le tronc d'un bouleau. Le paquet mesure peut-être 2 mètres de long. Il se compose de draps et de plastique et est entouré d'une ficelle qui s'est emmêlée dans les branchages.
C'est quoi ce truc ?
Emma réalise que c'est ce qu'elle avait pris tout à l'heure pour un fantôme entre les arbres. Elle se demande si ce n'est pas la tempête qui a projeté ce paquet jusqu'ici. Peut-être s'agit-il de gilets de sauvetage ou de bouées enveloppées dans une vieille toile de voile. Un projet artistique ? Sourit Samir. Emma le tapote avec sa canne et sent qu'il est mou comme le pis d'une vache. Beaucoup trop lourd pour avoir été déplacé par le vent. Lennart marmonne dans sa barbe, ouvre son couteau pliant et s'approche.
« Ne le touche pas !» dit Emma.
« Ça n'a pas l'air... »
Elle se tait lorsqu'il opère une profonde incision dans la partie la plus épaisse du paquet. Par l'ouverture, une bouillie grise striée d'un rouge marron s'écoule dans l'herbe. Une odeur chimique piquante les fait reculer. Lorsque la substance visqueuse s'est répandue sur le sol, un pied, à moitié dissous, apparaît dans l'herbe au milieu de la gelée brunâtre. 33 policiers et 15 experts du Centre national de médecine légale sont détachés à plein temps sur l'enquête préliminaire autour de la disparition de Margot Silverman. Les 5 inspecteurs principaux sont réunis dans la salle de conférence de la NOA. Sur la grande table sont disposés des ordinateurs, des bloc-notes, des stylos, de l'eau, du café et quelques paires de lunettes. L'équipe est dirigée par l'inspecteur Manvir Rai. Ses parents sont originaires de Goa, ce qui explique selon lui sa grande ouverture d'esprit envers tous, excepté les Portugais. Il porte un costume noir, une chemise blanche et une fine cravate, noire elle aussi. Ses sourcils sont froncés en permanence. C'est un homme perspicace qui s'exprime avec clarté. Il déroule un résumé de la situation en s'appuyant sur des photos du centre équestre de Beatlund à Värmdö. Des particules de poussière flottent paresseusement dans la lumière du projecteur. Pour conclure sa présentation, Manvir envisage toutes les possibilités, passant en revue les enquêtes auxquelles Margot a participé et les menaces plus globales proférées à l'encontre de la police. Une équipe va nous remettre un premier rapport ce soir. Elle est en train de recenser tous les individus récemment libérés ou actuellement en permission. Conclut Manvir avant de passer la parole à Juna. Juna se lève, pose sa veste sur le dossier de sa chaise et se tient immobile face à ses collègues. Le col de sa chemise est déboutonné et ses manches sont retroussées. Il a l'air usé, presque fébrile. Pourtant ses yeux brillent d'un gris aussi intense que du titane poli. Bien qu'il passe désormais le plus clair de son temps assis devant son ordinateur, sa musculature et ses nombreuses cicatrices témoignent de toutes ses années passées dans les sections opérationnelles et de sa formation militaire au combat rapproché non conventionnel. Comme vous le savez, le centre médico-légal a confirmé que le sang retrouvé est bien celui de Margot. On a aussi son urine, des fragments de moelle épinière et des traces de liquide céphalo-rachidien. Commence-t-il ? Nos équipes travaillent d'arrache-pied pour comparer toutes les empreintes relevées à celles des visiteurs habituels de l'écurie. On parle de 2800 empreintes, mais il est peu probable que l'on trouve la moindre trace de l'auteur du crime. Il est prudent, mais pas professionnel. constate Manvir. Nous avons trouvé la trace des pneus d'une camionnette à la sortie de la Hingarvegen, qui ne correspond à aucun des véhicules récurrents sur la scène du crime. Il pourrait s'agir du véhicule que nous recherchons.
Quelle est la prochaine étape ?
Demande Greta Jackson. Greta est une experte en profilage, docteur en sciences du comportement et en criminologie. Ses yeux sont bleu clair et ses cheveux gris sont coupés courts. Elle porte un pantalon moulant et une veste en velours rose pâle. Nous attendons encore d'autres résultats d'analyse. Précise Juna. Je viens d'avoir la confirmation que les empreintes sur la mangeoire que vous avez vues sur la photo sont bien celles de Margot. Ce qui signifie qu'elle était vivante quand on l'a traînée dehors. Il y a donc une possibilité qu'elle le soit toujours. Et si c'est le cas, l'urgence est extrême. Elle a reçu une balle dans la colonne vertébrale. Je sais que vous êtes prêt à tout donner.
Sommes-nous certains qu'on lui a tiré dessus ?
Insiste Greta. Il est difficile de lire les traces de sang d'une autre manière. Affirme Juna au moment où quelqu'un frappe à la porte. Randy Young, l'ex-petite amie de Saga Bauer, entre dans la salle de conférence avec un téléphone à la main. Il est vêtu d'un jean et d'un pull en laine bleu foncé et porte des lunettes à monture noire. Ses cheveux sont très courts et forment comme une ombre sur son crâne. Il y a 14 mois, il a été transféré de l'unité de cybercriminalité à la NOA.
Juna, tu as un appel de Stockholm Nord sur le réseau Raquel. Je pense que c'est important,
dit Randy en lui tendant l'appareil.
Lina, répond-il. Puis il entend une rapide inspiration à l'autre bout du fil.
Bonjour, je veux juste dire que nous avons suivi les événements autour de la disparition de Margot Silverman sur Raquel, dit un homme à la voix instable. Et je crois que c'est encore impossible à vérifier, mais... Merde, je... Qui est à l'appareil ?
Désolé.
Inspecteur Richard Svenbro de la police de Nortelier. Un silence s'ensuit et Juna entend un faible gémissement. Son collègue est visiblement choqué et a du mal à parler de manière cohérente.
Ok, Richard. Je vous écoute. Prenez votre temps.
L'encourage Juna d'une voix faible.
Nous avons trouvé les restes, enfin, la dépouille d'un être humain. Enfin, on pense... C'est indescriptible. Vraiment horrible. Vraiment horrible.
Où ça?
Sur une petite île, juste à l'extérieur du port de Kapellskär.
Pouvez-vous me dire à quel point c'est horrible?
Le corps a été dissous. Avec de l'acide, je crois. Mais au milieu de toute cette bouillie, il y avait une flasque de poche gravée du nom d'Ernest Silverman.